vous allez me dire. On y va ?
Ouais, on y va.
Ok. Donc Nicolas, moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence par préparer une cuisson d'un café. Et la cuisson qu'on va faire, c'est notre mélange maison. C'est-à-dire qu'on va prendre différents grains dans différents sacs et on va composer une recette avec ça. On y va ?
On y va.
Donc déjà, la pelle, un élément essentiel pour nous. Et ensuite, on se dirige vers le premier café. Comme c'est une recette, il faut que nos pesées soient correctes. Donc on commence par du café des Indes.
Donc c'est un dosage secret ou...
C'est un dosage secret, on va dire ça, tout à fait. En fait, l'intérêt, c'est que c'est un café équilibré et c'est surtout une recette que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, puisque chaque torréfacteur, quelque part, a aussi ses petits secrets. Je m'appelle Stéphane, donc je suis le gérant de cette entreprise Maison Vaillé. C'est notre 20e année maintenant où nous avons repris la torréfaction qui existait, elle, depuis le milieu des années 80. Et au fil du temps, on a tranquillement développé l'activité pour arriver à cette maison que j'espère beaucoup d'Arrageois et alentours connaissent.
Vaillé, ça vient d'où ce nom alors ?
Alors à Logis, nous étions deux à reprendre l'activité. Il y avait mon collègue Luc-Olivier Vabois et moi, Stéphane Joyer. Donc on a fait la contraction des deux noms et on a appelé ça la maison Vaillé parce que le café c'est aussi la convivialité. Donc c'est bien que vous puissiez, quand vous venez nous voir, vous sentir comme à la maison.
Pourquoi le café ?
Parce que c'est une matière très agréable à travailler. Il y a un côté kinesthésique non négligeable. Vous plongerez votre main tout à l'heure dans un sac de grains verts, vous verrez que c'est une activité, c'est très très agréable comme sensation. Puis ensuite, c'est une activité naturelle, c'est une activité authentique et ça génère de la convivialité. Donc c'est vraiment ce qui nous a plu quand nous avons repris cette activité artisanale. On s'en va au Costa Rica.
Comment on se forme, on devient torréfacteur, on est torréfacteur ou bien il y a des écoles, comment ça s'est passé pour vous ?
Alors nous à l'époque, il n'y avait pas de formation qui existait, il n'y avait pas d'école, donc on a appris avec le prédécesseur qui nous a transmis son savoir et ensuite ça s'est quand même bien développé et les fournisseurs ont fait un gros travail aussi de vulgarisation du café, donc à travers ça, il y a un enrichissement qui peut se faire sur un travail personnel. Et on a quelques écoles qui commencent à voir le jour, sans forcément avoir des formations diplômantes, mais sur des fournisseurs ou des professionnels qui font la vulgarisation de ce savoir-faire. On continue. Du Brésil, très beau café. Plus gros producteur mondial de café en Arabica et deuxième en Robusta. On aura l'occasion d'y revenir peut-être dans notre échange.
Là, on dit que le grain est vert, enfin il a une couleur un peu marron pâle, mais il est pas cuit, c'est ça ?
C'est ça, on appelle ça le café vert, donc c'est un café qui n'est pas torréfié. En fait, c'est le noyau de la cerise du caféier. Donc maintenant... On va ce qu'on appelle faire la montée de grain vert, c'est-à-dire qu'on va placer le café vert en attente d'être mis dans la machine. Et là, on va mettre en route un aspirateur qui nous permet plus facilement de monter les 25 kg, puisque les monter à la force des bras, ça deviendrait forcément compliqué au bout de la journée.
Donc là, cette opération, vous la faites tous les jours ou comment ça se passe un peu ?
Alors, tous les jours quasiment, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un café à la fois, on va essayer de globaliser une quantité de café, enfin une quantité de broche. La broche, c'est une cuisson de café, donc c'est à peu près 20-25 kg de café. Et on va faire ça à peu près une dizaine de fois dans la journée. On fait ça 3 jours par semaine, quasiment. Donc on voit les grains monter dans la trémie. Et on peut voir aussi la température. Donc on est à 180 degrés au niveau de l'intérieur du torréfacteur, ce qui est la température initiale pour mettre le premier café. Un peu comme la cuisson d'un steak, faut que votre poêle soit chaude.
un torréfacteur artisanal, à un moment, c'était peut-être en voie de disparition parce qu'il y a une industrialisation. Et puis ça revient, il y a des bruderies qui reviennent, des torréfacteurs qui ouvrent à nouveau. Comment vous voyez les choses, vous ?
Alors, c'est un peu comme un balancier. C'est vrai que ce sont des choses qui évoluent au fil du temps. Il y a une vingtaine d'années, c'était plutôt en perte de vitesse. Puis ensuite, le goût du bon café est arrivé. Et je pense que Nespresso a joué un très grand rôle là-dedans en termes de démocratisation pour l'accès au bon café, même si à travers ça, ils le mettaient plutôt dans une boîte de conserve, mais ça nous a servi. Ça a permis aux gens de découvrir que le café, c'était pas juste du café, mais c'était quelque chose sur lequel on pouvait avoir des sélections d'arômes très variées. Et c'est revenu, ça a de nouveau le vent en poupe. D'autant plus, et je terminerai par là, que la dosette perd un peu de vitesse et on revient sur le café grain. Donc c'est clairement notre activité, notre cœur de métier. Donc notre étape de montée de grain vert est terminée, on attend juste d'être à la bonne température pour lancer la cuisson.
Donc la bonne température, c'est
180 degrés pour commencer sur notre première cuisson.
Donc vous achetez des grains de café verts que vous torréfiez, donc c'est un petit peu le processus que vous nous avez montré. Et ensuite vous le vendez, vous le moulez. Alors, j'ai révisé ma conjugaison du verbe moudre.
Le verbe moudre n'est pas facile. Ouais. Donc nous le moulons absolument, mais à la demande. C'est-à-dire que le café reste en grain, il va être présenté en grain dans la boutique, et ensuite il sera moulu à la demande pour deux raisons. La première, c'est que oui, ça se conserve mieux en grain. L'oxydation ne va pas se faire rapidement, contrairement à un café moulu où la surface de contact est plus importante. Mais surtout, la mouture est un élément essentiel de la qualité du café. En fonction de la cafetière que vous utilisez, vous avez besoin d'avoir une mouture adaptée. Si vous n'avez pas la bonne mouture, vous pouvez ne pas avoir un bon rendu en tasse. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on ne le moue pas d'avance.
D'accord. Donc selon la cafetière que j'ai, la mouture n'est pas la même, c'est ça ?
Selon le type de cafetière, absolument. Quand je dis type de cafetière, j'entends cafetière filtre papier, cafetière italienne, cafetière à piston, cafetière expresso. Tout ça, ce sont des cafetières qui demandent des moutures différentes.
Question difficile. C'est quoi un bon café ?
C'est celui qui va vous plaire. Il n'y a pas de bon ou mauvais café, sous réserve que vous travaillez sur des belles qualités de grains. Ensuite, si on regarde qu'est-ce qui fait la qualité d'un café, donc oui, je viens de vous le dire, c'est vraiment la sélection des grains, puisqu'on peut avoir de tout dans les grains de café. Et ensuite, c'est la façon de le cuire. On vient de le voir avec la torréfaction, avec la cuisson lente, comme je vous expliquais, où on a vraiment un rendu aromatique complet. Et ensuite, c'est la fraîcheur de cuisson. Le café reste une matière fraîche, et le mieux, c'est de le consommer le plus proche de l'instant de cuisson. C'est pour ça qu'on ne vend jamais notre café d'avance, on le torréfie en fonction de nos besoins.
Un petit point sur Arabica Robusta. On a tendance à dire que l'Arabica, c'est la meilleure qualité, c'est meilleur. Comment vous voyez les choses ? C'est quoi la différence déjà ?
C'est souvent ce qu'on a dit. D'ailleurs, on balaye le Robusta du revers de la main en disant « Moi, je veux pas de Robusta, c'est pas du bon café. » On a tort. On a tort parce que le Robusta a sa lettre de noblesse quand même. On peut avoir des bons Robusta et se régaler avec. Sous réserve, bien sûr, qu'on aime le côté un peu plus brut qui est typique au Robusta. Dans l'Arabica, on a une palette d'arômes beaucoup plus large et beaucoup plus riche. C'est un café plus délicat qui va pousser dans des altitudes un peu plus hautes. Pourquoi ? Pour avoir des conditions climatiques plus acceptables, moins de chaleur du soleil, à l'ombrage des grands arbres. Et on va avoir cette palette d'arômes très large. Le Robusta, comme son nom l'indique, on a un café plus robuste, qui peut pousser dans des conditions plus difficiles, en basse altitude, qui a un rendement supérieur, mais qui a une qualité gustative peut-être plus restreinte. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté sur l'Arabica. Mais, je le répète, on peut vraiment se régaler avec un très bon Robusta. Nous y sommes, on va pouvoir libérer les grains.
Un petit mot sur cette machine.
Donc là, on est sur un torréfacteur. Torréfacteur traditionnel qui date de 1961. C'est une façon lente de cuire le café qui est encore, au jour d'aujourd'hui, la meilleure façon d'aller chercher la quintessence des arômes du grain de café. On est sur une cuisson lente, c'est-à-dire qu'on va avoir une cuisson à cœur. Là où un industriel est capable de cuire quasiment 800 à une 800 kg à une tonne de café en quelques minutes. Nous, il va nous falloir 20 minutes pour cuire 20-25 kg de café. Et durant cette phase, on va avoir ces développements aromatiques qui vont avoir le temps de se placer, d'où cette cuisson à cœur.
Comme dans tout artisanat, comme dans tout commerce, il y a cette question de comment on se produit la matière première et des conditions dans lesquelles elles sont produites. Alors comment vous vous posez cette question? Comment vous répondez à cette question peut-être?
Alors c'est une filière très ancienne, la filière du café, et puis aussi c'est une filière qui est assez bien structurée. Nous sommes trop petits pour aller directement dans les pays qui cultivent le café pour pouvoir sélectionner nos grains et les faire venir, parce que derrière il y a toute une chaîne d'approvisionnement, toute une chaîne logistique et aussi une chaîne avec des engagements financiers à respecter sur lesquels aujourd'hui on n'est pas capable. Donc on passe par des importateurs qui ont toute cette logistique là et qui vont nous garantir qu'entre le grain qu'on aura sélectionné sur échantillon et le grain qui nous sera livré, ce sera la même chose. Donc ça, c'est important de passer par ces intermédiaires. Et ensuite, on peut retrouver tout type de production. On peut, en Éthiopie, avoir des productions relativement pléthoriques avec beaucoup, beaucoup de petits fermiers qui ont quelques arbustes dans leur champ, avec une production et une intensité comme au Brésil, où là, on a des champs qui vont faire plusieurs centaines d'hectares pour un champ. Donc là, on a vraiment tout type de profil de fermiers. Mais derrière ça, vous avez toujours des gens qui ont la volonté de faire du travail de qualité. Donc nous, c'est ce qu'on recherche, c'est à trouver des cafés qui ont des intérêts gustatifs très forts et puis qui sont sur de très belles qualités.
On parle de production donc dans ce que vous appelez la ceinture tropicale, c'est ça?
Oui, absolument. Le café est produit entre les deux tropiques, tropique du Capricorne et tropique du Cancer. C'est vraiment dans cette zone, ce qu'on appelle la ceinture du café ou la ceinture intertropicale où le café va être produit. Ce qui fait qu'on en retrouve tout autour de la planète. En Chine, on a du café.
Est-ce que le réchauffement climatique a une influence et est-ce que c'est aussi... c'est vrai que les consommateurs voient une augmentation de manière générale du café, alors peut-être pas chez vous, mais dans les supermarchés, dans les épiceries, tout ça. Est-ce que c'est une conséquence, la hausse du prix du café, du réchauffement climatique? Comment vous voyez les choses?
C'est un peu complexe comme question, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Quand vous parlez de hausse du café, vous parlez de hausse de son prix. Et ça, les fluctuations peuvent avoir plusieurs explications. Si je prends une approche macroscopique, c'est vrai que le réchauffement climatique aura et commence à avoir un impact sur la production de café. L'arabica devient de plus en plus compliqué à cultiver, tout simplement parce que c'est une plante plus sensible. Donc on monte petit à petit plus en altitude, avec les contraintes que ça peut donner. Le Robusta est quelque chose qui va peut-être se démocratiser davantage parce que ben, il va prendre la place du Robusta, il va pouvoir comme il est plus résistant et plus facile à produire, va prendre la place de l'arabica. Ensuite, sur le marché, il y a quand même des éléments qui sont reliés au climat, on va dire, local, que ce soit une sécheresse, que ce soit de la pluie. Et après, on a aussi sur l'intervention d'agents financiers, puisqu'on est sur des bourses mondiales, où des gens qui n'ont pas forcément besoin de la matière première vont venir accentuer les fluctuations qui, elles, ont des fondements climatiques ou sur des réelles raisons de production. Et ça fait fortement varier les cours. Et la géopolitique a un impact. La guerre en Ukraine a eu un impact. Pourquoi? Parce qu'elle a transféré les flux financiers sur certaines matières qui sont venues sur le monde du cacao et le monde du café. Alors que l'Ukraine ne produit pas de café, vous voyez, par exemple.
Il paraît aussi que c'est parce que les Chinois ont commencé à consommer plus de café que ça fait aussi monter les prix.
Complètement, puisque l'offre commence à croître. Alors nous, sur les pays comme les nôtres, c'est plutôt en stagnation, mais sur des pays émergents, oui, c'est des choses sur lesquelles on voit la consommation augmenter. Et donc l'offre et la demande, voilà, expliquent aussi ces éléments, qui sont, je le répète aussi, accentués par la partie spéculative. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit point sur le café?
Oui, on y va. Faut pas l'oublier.
Faut pas l'oublier, faut faire attention parce que...
Alors là, il est bien doré déjà.
Là, il a bien doré. On voit que la magie a opéré puisqu'on commence à avoir ce côté plutôt caramel. Et je vous propose qu'on le sente, le café.
Alors c'est pas évident de décrire des odeurs à la radio, mais on va essayer. En tout cas, ça sent très bon. Oui, ça sent.
Mais on n'est pas encore sur le café tel qu'on le connaît. Là, on vient de passer un cap où on a le côté vraiment sucré qui va apparaître. Et ça ressemble presque à du miel chaud et à du pain grillé.
Ça sent très très bon.
Et là, on voit que sa couleur a quand même pas mal foncé. Donc on arrive sur un côté marron clair. On voit que le grain est encore relativement fripé et ressemble assez fortement au grain d'origine, même si sa couleur a changé. Et on va voir que dans une quinzaine de degrés, le café va, ce qu'on appelle faire son premier crack, c'est-à-dire que c'est l'humidité qui est contenue dans le café qui va sortir du grain de café sous forme de vapeur et va le faire gonfler. Et on l'entendra crépiter. J'espère que les auditeurs auront cette sensation aussi.
Donc ça sera le signal que c'est prêt ou pas ?
Ça sera le signal qu'on pourrait potentiellement consommer le café. Avant, on aura un côté trop végétal et on ne va pas se régaler avec. Mais une fois le premier crack, oui, on pourrait commencer à consommer le café. Simplement, on risque d'avoir un côté beaucoup trop végétal et pas beaucoup de corps, pas beaucoup de force au café. Donc on va continuer à le monter encore en température et on va continuer à le foncer dans sa couleur. Pour tranquillement arriver, mais au deuxième crack, alors nous, on ne va pas jusqu'à ce second crack, et on appelle ce second crack, c'est quand l'huile contenue dans le grain de café va sortir du grain de café. Vous avez déjà vu des grains qui sont relativement gras, voilà, limite huileux, c'est-à-dire que l'huile du café commence à sortir. Ça donne des cafés, pour moi, trop marqués. On perd le côté fruité, aromatique du café. Et le risque aussi, c'est que ça dégrade très vite le café, puisque l'huile va rancir et ça donnera très vite un mauvais goût au café. On commence à l'entendre crépiter. Alors c'est pas un feu de bois, c'est vraiment du café en train de cuire. Et on s'aperçoit que le grain, tranquillement, est en train de prendre sa forme définitive. Et il devient très joli. Il est en train de gonfler.
Le café, ça fait partie de ces produits qui ont une place spéciale quand même dans la vie des gens. Comme le chocolat, peut-être le thé ou certains diront la bière. C'est un rapport un petit peu... Il y a beaucoup de plaisir dans le rapport que les gens ont au café, non ?
Oui, je pense qu'il y a un côté très rassurant et la pause café, il y a cet élément cocooning, convivial. D'ailleurs, quand on accueille les gens, on leur propose un café.
Stimulant aussi, non ?
C'est stimulant également. C'est stimulant également puisqu'il y a de la caféine. Alors, on revient à notre Arabica, notre Robusta. Il y aura deux fois plus de caféine dans un Robusta que dans un Arabica. Donc, si on ressort un petit échantillon, Nicolas, vous voyez que le café a vraiment pris sa couleur presque finale et on voit que le grain est beaucoup plus joli, sa peau s'est tendue et le grain a gonflé également par rapport à l'état initial du grain vert. On approche de la fin de cuisson.
Donc là on est passé dans la phase suivante, on a versé les grains de café dans un autre récipient.
Oui, c'est-à-dire qu'une fois que le café est à température et que sa cuisson est terminée, il faut tout de suite le refroidir. Donc on le fait basculer dans ce qu'on appelle un ramasseur. C'est un cylindre avec des pales qui vont mélanger le café. Et on a aussi un refroidisseur, donc c'est tout simplement un aspirateur qui va aspirer l'air ambiant et qui va faire passer l'air à travers le café et une grille qui permet de dissiper la chaleur. L'important, c'est de refroidir le café pour arrêter sa cuisson. Le temps que le café refroidisse, je reviens juste sur la cuisson lente. Et il y a un élément dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est de la pellicule argentée. C'est-à-dire que le grain de café, si on reprend à l'origine, ça vient de la cerise du caféier. Et dans cette cerise, on va retrouver un noyau qui est en deux parties. Donc il y a deux hémisphères de ce noyau. Il y a donc deux grains de café dans la cerise. Et sur ce noyau, ou ce grain de café, on retrouve une petite pellicule argentée. Alors, on ne pourra pas la montrer aux auditeurs, mais je vais vous la montrer. Sur le grain vert, vous la voyez, elle est relativement fortement collée au grain de café. C'est la petite pellicule que vous voyez ici. Et cette pellicule est indigeste. Elle se détache uniquement en fin de cuisson sur des cuissons lentes. C'est pour ça qu'on a aussi des écarts gustative assez importante entre un café dit industriel et un café artisanal. Donc cette petite pellicule, nous on la récupère, on appelle ça ensuite un pelliculier. Elle se détache en fin de cuisson. Là, notre café est cuit. Alors, vous voyez, Nicolas, la différence, outre la couleur, on connaît tous le grain de café cuit, donc qu'on appelle marron foncé ou noir, et le grain vert. Mais outre la couleur, vous voyez la taille du café.
Il est gonflé.
Absolument. Et ça va se vérifier quand on va faire notre pesée finale pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment de l'impact de la cuisson.
Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, hein, c'est que la Maison Vaillé, à Pignon-sur-Rue, c'est-à-dire que vous êtes vraiment là en centre-ville, l'atelier où on se trouve est vraiment au bord du trottoir. Et donc, les passants peuvent aussi sentir l'odeur du bon café en passant.
Complètement. Alors non seulement ils peuvent sentir l'odeur, voire aussi un peu de fumée quand la vapeur sort de notre torréfaction, mais on n'est pas avare de les inviter à venir découvrir notre activité. C'est très simple en ouvrant la porte de pouvoir les faire bénéficier de tout ça, oui. Oui.
Une petite terrasse, un café du jour, une sélection chaque jour, c'est ça?
Oui, chaque semaine en fait. Chaque semaine, parce que je reviens à ce que nous parlions précédemment, la mouture du café est essentielle. Donc quand on fait les expressions, on a besoin d'avoir un café et un moulin calibré, donc on le fait toutes les semaines pour changer de café. Donc chaque semaine un café différent en fonction de l'ensemble des cafés que nous avons. Alors traditionnellement nous avons 15 cafés. Sur les 15 cafés, vous allez découvrir 11 variétés qui elles sont permanentes, et ensuite on vous invite à partir en voyage sur 4 origines que l'on va changer régulièrement à peu près 3-4 fois dans l'année. Donc ça vous fait découvrir beaucoup de choses.
On en est où là alors?
Donc là on a terminé notre cuisson. La machine continue tranquillement son cycle pour refroidir. Et là ce que je vous propose, Nicolas, c'est qu'on puisse voir combien de café nous avons obtenu. Alors, on ne va pas compter les grains, à mon avis il y a le même nom, mais on ne va pas faire cet effort là. Par contre on va peser et voir combien de grains de kilos nous avons.
Donc là, on voit que c'est la même taille de récipient, mais la hauteur a vraiment, vraiment changé.
Absolument, nous sommes sur la même taille de récipient, et si vous vous souvenez, vous m'aviez dit à peu près 40 cm.
Ouais. Là, on est presque à 1 mètre, je dirais, ou 80 cm à vue de nez. Ouais, c'est quasiment le double, hein. Ça va doubler de volume.
Ça a quasiment doublé de volume, tout à fait. Et maintenant, vous vous souvenez qu'on avait mis 25 kg, mm-hmm. On va voir combien nous avons. Nous sommes à peine plus de 21 kg. Autrement dit, il y a eu 4 kilos qui se sont évaporés, notamment par l'humidité, par cette petite pellicule argentée aussi qui s'est détachée. Voilà. Et nous avons un café qui est prêt à consommer.
Quand vous plongez vos mains dedans, il y a une notion de plaisir aussi, non ?
Ah, complètement, complètement. Je peux dire qu'on a une activité qui nous permet de nourrir notre âme. Et c'est ce qui est vraiment fortement intéressant dans ce qu'on fait au quotidien.
Peut-être une dernière question. Il paraît que les puristes ne mettent pas de sucre. Okay. Sucre ou pas sucre, alors ?
Question ultime, sucre ou pas sucre ? Moi, je dirais pas sucre. En fait, je vous invite à aller chez votre torréfacteur, à prendre du café de torréfacteur fraîchement torréfié sur des torréfactions lentes et goûtez-le sans sucre. Vous allez voir. C'est possible. Souvent, quand on met du sucre, c'est parce qu'on veut masquer des choses qui ne sont pas forcément agréables.
Avec un petit chocolat quand même ou pas ?
Ah, le chocolat, c'est autre chose. Ah. Ça peut tout à fait accompagner. Il y a cette amertume du chocolat qui peut venir se marier très bien avec l'intensité du café. Et je préfère un chocolat noir.